Bonsoir et bienvenue dans Samedi Noir, votre rendez-vous avec la fiction le samedi de 21h à 22h. Ce soir, en direct du studio 119 de la Maison de la Radio, une nouvelle de Stefan Zweig. Stefan Zweig est un écrivain né en Autriche-Hongrie en 1881, mort suicidé en 1942 à Petropolis au Brésil. Zweig a été redécouvert ces derniers temps grâce à son livre Le Monde d'hier, adapté, joué au théâtre par Jérôme Kircher un peu partout en France, et aussi redécouvert par un film relatant son exil au Brésil, exil contraint par la chasse aux Juifs entreprise par Hitler. Les lecteurs de Zweig sont nombreux et on connaît souvent par cœur de nombreux titres de nouvelles comme Amok, Le joueur d'échecs, 24 heures de la vie d'une femme ou bien encore La lettre d'une inconnue que nous avons choisi de vous faire découvrir ou redécouvrir ce soir dans Samedi Noir et dans une réalisation de Cédric Aussire. Les personnages de Zweig se brûlent, se dévorent intérieurement, en proie à des passions secrètes ou violentes. Zweig fouille l'âme humaine et ne cesse de nous impressionner par sa lucidité et sa compréhension des êtres humains. C'est tout de suite en direct du studio 119 de la Maison de la Radio.
Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig, traduit de l'allemand par Mathilde Lefebvre. Réalisation Cédric Aussire.
Le romancier déjà connu R regagnait Vienne de bon matin après 3 jours d'excursion revigorante à la montagne et venait d'acheter un journal à la gare, lorsqu'il se souvint aussitôt, à peine aperçu distraitement la date, que c'était son anniversaire. Le 41e, réfléchit-il rapidement, et ce constat ne lui causa ni joie ni peine. Il feuilleta brièvement le journal dans un bruit de pages froissées, puis rentra chez lui en voiture de location. Son domestique lui annonça 2 visites et quelques appels téléphoniques durant son absence et lui apporta sur un plateau le courrier qui s'était accumulé. Le romancier regarda le courrier d'un air distrait, ouvrit quelques enveloppes dont les expéditeurs l'intéressaient. Il écarta dans un premier temps une lettre dont il ne reconnaissait pas l'écriture et qui lui semblait trop volumineuse. Entre-temps, le thé avait été servi. Il s'installa confortablement dans le fauteuil, feuilleta encore le journal et quelques imprimés, puis il s'alluma un cigare et saisit enfin l'enveloppe mise de côté. Il y avait là environ 2 douzaines de pages couvertes à la hâte d'une écriture de femme, inquiète, inconnue. Un manuscrit plutôt qu'une lettre. Machinalement, il tâta encore une fois l'enveloppe pour voir si, par hasard, un mot d'accompagnement n'y serait pas resté. Mais l'enveloppe était vide et ne portait pas, davantage que son contenu, l'adresse d'un expéditeur ou une quelconque signature. Étrange, pensa-t-il, en reprenant les feuillets. À toi qui ne m'as jamais connu. Ces mots figuraient en haut de la première page en guise d'adresse ou de titre. Intrigué, il releva les yeux. Était-il question de lui ou d'un être imaginaire? Sa curiosité fut soudain éveillée et il se mit à lire.
Mon enfant est mort hier. Pendant 3 jours et 3 nuits, je me suis battue avec la mort pour sauver cette petite vie fragile. Je n'ose pas regarder, je n'ose pas bouger, car lorsque les flammes vacillent, des ombres volettent sur son visage et sur sa bouche close. On dirait que ses traits s'animent, et je pourrais croire qu'il n'est pas mort, qu'il va se réveiller et me dire avec sa voix claire de tendres paroles d'enfant. Je crois que j'ai de la fièvre. Peut-être même ai-je la grippe à mon tour, qui se faufile maintenant de porte en porte, et ce serait bien. car je pourrais alors partir avec mon enfant et ne serais pas obligée de mettre fin à mes jours. Sache que c'est ici une morte qui te raconte sa vie. Sa vie qui fut tienne de la première à la dernière heure. Que mes paroles ne t'effraient pas. Une morte ne réclame plus rien. Elle ne veut ni amour, ni pitié, ni consolation. Je veux une seule chose de toi. Que tu croies tout ce que je te dis. C'est ma seule prière. On ne meurt pas, on ne ment pas à l'heure de la mort de son unique enfant. Je veux te confier toute ma vie. Cette vie qui, en vérité, n'a commencé que le jour où je t'ai connue. Quand tu es venue, j'avais 13 ans et j'habitais la même maison que celle où tu habites maintenant, cette même maison où tu as entre les mains cette lettre, mon dernier souffle de vie. J'habitais sur le même palier, l'appartement exactement en face du tien. Tu ne te souviens certainement plus de nous, de la pauvre veuve d'un administrateur des finances et de cet enfant chétive et malingre. Nous ne faisions pas de bruit, comme immergés dans notre sort médiocre de petites gens. La rumeur s'était répandue par la bouche du concierge qu'un écrivain, un homme seul et tranquille, avait pris l'appartement. C'est là que j'ai entendu ton nom pour la première fois. Toi-même, je ne t'ai pas aperçu tout de suite, même lors de ton emménagement. C'est ton domestique qui veillait au bon déroulement des travaux. Ce petit homme sérieux, avec ses cheveux gris, qui dirigeait tout avec douceur et compétence. Quand il prononçait ton nom, c'était toujours avec une certaine révérence, un respect particulier. Comme je l'ai aimé pour cela, ce bon vieux Johan, tout en le jalousant de pouvoir toujours s'occuper de toi et te servir. Bien avant que tu n'entres toi-même dans ma vie, il flottait déjà autour de toi comme un nimbe, une auréole de richesse, d'étrangeté et de secret. Dans ce petit immeuble de faubourg, nous attendions tous avec impatience ton emménagement. Les gens qui mènent une petite vie sont toujours curieux de la nouveauté qui frappe à leur porte. Et comme elle a grandi chez moi, cette curiosité à ton égard. Lorsqu'un après-midi, au retour de l'école, j'ai trouvé le camion de déménagement devant la maison. Je suis restée sur le pas de la porte pour tout admirer. Toutes tes affaires étaient si étranges et différentes. Je n'en avais jamais vu de semblables. Je crois que j'aurais pu rester là des heures à tout contempler, mais ma mère m'a dit de rentrer. Cette nuit-là, sans te connaître, j'ai rêvé de toi pour la première fois. Tu as emménagé le lendemain, mais malgré tous les efforts déployés à tes pieds, je n'ai pas pu t'apercevoir, ce qui n'a fait qu'accroître ma curiosité. Enfin, le troisième jour, je t'ai vu. Tu grimpais les escaliers deux marches à la fois, à ta manière inimitable, d'un pas léger et juvénile. Tu tenais ton chapeau à la main et j'ai pu voir, avec un étonnement indescriptible, ton visage plein de vie et de clarté et tes cheveux de jeune garçon. Réellement, j'ai tressailli de stupeur en voyant combien tu étais jeune, jolie, élégant, souple et svelte. Et inconsciemment, j'ai perçu chez toi ce que chacun avait perçu, que tu menais une double vie, avec une face limpide, tournée vers le monde, et une face très sombre que toi seul connais. Cette profonde dualité qui est le secret de ton existence, je l'ai ressentie au premier regard. Moi, la jeune fille de 13 ans que tu avais aimantée, attirée par un sortilège. Tu comprends alors, mon amour, quel miracle, quelle énigme attirante tu fus pour moi, qui étais alors une enfant. Découvrir soudainement un homme qui suscitait le respect parce qu'il avait écrit des livres, parce qu'il était célèbre dans le grand monde, sous les traits d'un jeune homme de 25 ans, élégant avec cette gaieté gamine. Faut-il encore absolument te dire qu'à dater de ce jour, plus rien d'autre que toi n'a compté pour moi dans notre maison, dans mon pauvre petit monde d'enfant, qu'avec toute l'obstination, toute l'opiniâtreté obsessionnelle d'une fillette de 13 ans, je n'avais plus en tête que ta vie, que ton existence. Je t'épiais, toi, tes habitudes. J'épiais les gens qui venaient chez toi. Et tout ceci, plutôt que l'affaiblir, ne faisait qu'accroître ma curiosité à ton égard, car tout le caractère double de ton existence s'exprimait dans la diversité de ces visites. Ils venaient là de jeunes hommes, des camarades avec qui tu riais et te montrais joyeux, des étudiants en haillons, et puis des dames, et encore des dames qui arrivaient en auto. Beaucoup, beaucoup de femmes. La curiosité passionnée avec laquelle je t'épiais et te guettais ne savait pas encore, chez l'enfant que j'étais, que c'était déjà de l'amour. Mais je sais exactement mon amour. Le jour et l'heure où pour toujours et à jamais, je t'ai abandonné mon cœur. Je rentrais d'une promenade avec une camarade d'école et nous bavardions devant la porte d'entrée de l'immeuble. C'est alors qu'une voiture est arrivée. À peine était-elle arrêtée que déjà tu t'es lancé du marchepied vers la porte, à ta manière élastique et impatiente qui me ravit encore aujourd'hui. Quelque chose m'a poussé malgré moi à t'ouvrir la porte. Et je me suis donc retrouvée sur ton chemin, si bien que nous avons failli nous heurter. Tu m'as regardée avec ce regard doux, chaud, enveloppant comme un geste tendre. Tu m'as souri. Oui, je ne peux le dire autrement. Avec tendresse. Et tu m'as dit d'une voix douce et presque familière, « Merci beaucoup, mademoiselle. » À dater de 7 secondes, je t'ai aimé. Je sais qu'à toi, l'enfant gâté, les femmes ont souvent dit ce mot-là. Mais crois-moi, personne ne t'a aimé aussi servilement, aussi aveuglément, aussi passionnément que l'être que j'étais alors et que je suis toujours restée pour toi. Car rien sur terre ne ressemble à l'amour insoupçonné d'une enfant tapie dans l'ombre, tant cet amour est dépourvu d'espoir, dévoué, servile, attentif à tout et passionné, comme jamais ne le sera l'amour fait de désir, inconscient bien qu'exigeant, d'une femme adulte. Tout ce qui n'avait pas de rapport avec toi n'existait pas. N'avait de sens dans mon existence que ce qui était lié à toi. Tu as métamorphosé ma vie entière. Jusqu'alors indifférente à l'école et élève médiocre, je suis devenue soudainement la première de la classe. J'ai lu des livres par milliers jusque tard dans la nuit parce que je savais que tu aimais les livres. Je prenais grand soin de mes habits, les nettoyais, les recousais, uniquement pour paraître charmante et soignée devant toi. Mais tout cela était bien insensé, car jamais, jamais plus ou presque, tu ne m'as regardée. De ma 13e à ma 16e année, j'ai vécu chaque heure en toi. Ah, quelle folie n'ai-je pas commise! J'embrassais la poignée de porte que ta main avait touchée. Je volais un mégot de cigarette que tu avais jeté avant d'entrer et qui devenait sacré à mes yeux parce que tes lèvres l'avaient touché. Je voudrais juste encore te confier le plus beau moment de mon enfance et je te prie de ne pas te moquer de son insignifiance. Car pour l'enfant que j'étais, c'était l'infini. Ce devait être un dimanche. Tu étais en voyage, et ton domestique traînait à travers la porte ouverte de ton appartement de lourds tapis qu'il venait de battre. Ce que portait le bon monsieur pesait bien lourd, et dans un accès d'audace, je suis allée vers lui et lui ai proposé mon aide. Il fut surpris, mais me laissa faire. Et c'est ainsi que je vis. Je voudrais te dire avec quelle respectueuse et pieuse vénération l'intérieur de ton appartement, ton monde, ce bureau auquel tu avais l'habitude de t'asseoir et sur lequel il y avait quelques fleurs dans un vase de cristal bleu, tes armoires, tes tableaux, tes livres. Ce ne fut qu'un regard furtif jeté à la dérobée dans ton existence, car le fidèle Johann m'aurait certainement interdit une observation plus poussée, mais avec ce seul regard, J'absorbais toute l'atmosphère et j'avais de quoi nourrir éternellement mes rêves de toi, ceux du jour comme ceux de la nuit. Elle fut, cette courte minute, la plus heureuse de toute mon enfance. Je voulais te la raconter. Et cette autre encore, cette heure la plus terrible. Malheureusement si proche de cette minute d'extrême bonheur. Un jour, ma mère m'a appelée avec une gravité assez insistante pour que je vienne la rejoindre dans sa chambre. Elle avait à me parler sérieusement. J'ai blêmi et senti mon cœur battre très fort. Avait-elle deviné quoi que ce soit? Mais ma mère, elle-même, était embarrassée. Elle m'a embrassée tendrement, ce qu'elle ne faisait jamais. Une fois, deux fois, m'a attirée à côté d'elle sur le canapé et a commencé à me raconter, avec hésitation et gêne, qu'un parent éloigné qui était veuf l'avait demandé en mariage et qu'elle avait décidé, principalement à cause de moi, d'accepter. « Mais nous restons ici ?» fut la seule chose que j'ai pu encore bredouiller. « Non, nous déménageons à Innsbruck. Ferdinand possède là-bas une belle villa. » Je n'ai pas entendu la suite, je n'écoutais plus. Un voile noir m'est tombé sur les yeux. J'ai su plus tard que je m'étais évanouie. La veille de notre départ, j'ai senti, avec une résolution soudaine, que je ne pourrais vivre sans être près de toi. Je n'avais pas d'autre salut que toi. Comment cela m'est-il venu à l'esprit? Étais-je capable d'avoir les idées claires en ces heures de désespoir? Je ne pourrais jamais le dire. Mais soudain, ma mère était partie. Je me suis levée et je suis allée en face, chez toi. Ou plutôt non, ce n'est pas moi qui suis allée. Une force magnétique m'a poussée, j'embrais des membres tremblants jusqu'à ta porte. Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas clairement ce que je voulais. Tomber à tes pieds et te supplier de me garder comme servante, comme esclave. Je crains bien que ce fanatisme innocent d'une gamine de 15 ans te fasse sourire. Mais mon amour, tu ne sourirais plus si tu savais comment autrefois je suis restée dehors, dans ce couloir glacial. Paralysée par la peur et pourtant poussée par une force inimaginable, comment j'ai pour ainsi dire arraché de mon corps mon bras tremblant pour le lever et la lutte a duré l'éternité de quelques secondes effroyables, appuyée sur le bouton de la sonnette. Aujourd'hui encore, ce son strident résonne à mes oreilles, ainsi que le silence qui a suivi, durant lequel mon cœur s'est arrêté de battre et mon sang s'est figé. J'écoutais si tu venais. Mais tu n'es pas venu. Personne n'est venu. Manifestement, tu étais de sortie cet après-midi-là et Johan devait faire les courses. Je suis revenue alors comme une aveugle, cette sonnerie morte dans l'oreille, jusqu'à notre appartement dévasté et vide, et me suis jetée, épuisée sur une couverture de voyage, harassée par ses quatre pas, comme si j'avais marché des heures entières dans une neige profonde. Toute la nuit, toute cette longue et terrible nuit, mon amour, je t'ai attendue. Ma mère à peine couchée et endormie, je me suis glissée furtivement dans l'entrée pour écouter à la porte si tu rentrais chez toi. J'étais fatiguée, mes membres me faisaient mal et il n'y avait plus aucun fauteuil où m'asseoir. Je me suis alors couchée sur le sol froid, balayée par le courant d'air de la porte. Ça faisait mal, mais je t'attendais, t'attendais comme on attend son destin. Enfin, il devait être 2 ou 3 heures du matin, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en bas, puis des pas dans les escaliers. Je tenais, tremblante, la poignée de la porte. Était-ce bien toi qui venais là? Oui, c'était bien toi, mon amour. Mais tu n'étais pas seule. J'ai perçu un rire discret et amusé, le froufrou d'une robe de soie et ta voix qui parlait tout bas. Tu rentrais chez toi avec une femme. Comment ai-je pu survivre à cette nuit? Je l'ignore. Le lendemain matin, à 8 heures, on m'a embarqué pour Innsbruck. Je n'avais plus la force de résister. De mes 16 à mes 18 ans, j'ai vécu comme une prisonnière, une répudiée au sein de ma famille. Mon beau-père, un homme très calme et peu disert, était bon avec moi. Et ma mère, comme pour se faire pardonner une injustice involontaire, prête à satisfaire tous mes désirs. Il y avait des jeunes gens qui s'affairaient autour de moi, mais je les repoussais tous, dans une attitude de défi passionné. Je ne voulais pas vivre heureuse et comblée loin de toi. Je m'enterrais moi-même dans un univers sombre fait de la solitude et des supplices que je m'infligeais. J'étais en deuil et je voulais être en deuil. Toutes mes pensées et toutes mes aspirations étaient tendues vers un seul but. Revenir à Vienne, revenir près de toi. Et j'ai fini par obtenir d'aller à Vienne travailler chez un parent, comme employée d'un grand magasin de confection. Dois-je te dire où mes premiers pas m'ont menée lorsque je suis arrivée à Vienne ? Enfin, enfin, par un soir d'automne plein de brume. J'ai laissé mes valises à la gare, je me suis précipitée dans un tramway, comme il me semblait rouler lentement, chaque arrêt m'exaspérait, et j'ai couru jusqu'à la maison. Des fenêtres étaient éclairées, mon cœur battait à se rompre. Je restais ainsi devant chez toi tous les soirs. Souvent, j'attendais des heures en vain, souvent tu finissais par sortir de la maison en compagnie de connaissances. Deux fois, je t'ai vu aussi avec des femmes. Je connaissais déjà, depuis mon enfance, tes éternelles visiteuses. Mais cela me faisait tout à coup mal physiquement. Quelque chose se tendait en moi. J'étais à la fois hostile à cette intimité charnelle évidente avec une autre et attirée par elle. Un soir, enfin, tu m'as remarqué. Le hasard a voulu qu'une voiture de livraison encombre la rue, ce qui t'a obligé à passer juste à côté de moi. Sans en avoir conscience, ton regard distrait m'a effleuré pour devenir immédiatement, sitôt rencontré l'attention du mien. Oh, comme ce souvenir m'a causé de l'effroi. Ce regard qui s'adresse aux femmes. Ce regard tendre qui est le tien, qui enveloppe et en même temps déshabille, embrasse et déjà étreint, et qui a éveillé pour la première fois en l'enfant que j'étais une femme et une amoureuse. Pendant une ou deux secondes, ce regard a soutenu le mien qui ne pouvait ni ne voulait s'arracher à lui. Puis tu es passé. Mon cœur battait la chamade. Malgré moi, j'ai dû ralentir le pas et comme une curiosité incontrôlable m'a fait me retourner, j'ai vu que tu t'étais arrêté et que tu me suivais du regard. Et à l'air curieux et intéressé avec lequel tu m'observais, j'ai su aussitôt que tu ne m'avais pas reconnu. Tu ne m'as pas reconnu, ni jadis, ni jamais, jamais tu ne m'as reconnu. Comment te décrire, mon amour, la désillusion née de cette seconde, de cette première fois où je subissais ce destin de n'être jamais reconnu par toi, qui a été le mien toute ma vie et avec lequel je meurs. Ne pas être reconnu, ne jamais cesser de ne pas être reconnu par toi. Et lorsque, deux jours plus tard, ton regard m'a enveloppé avec une certaine familiarité à l'occasion d'une nouvelle rencontre, une fois encore, tu n'as pas reconnu en moi celle qui t'aimait et que tu avais éveillée à la vie, mais simplement la jolie fille de 18 ans qui, deux jours auparavant, t'avait croisée au même endroit. Tu m'as regardée gentiment surpris, un léger sourire aux lèvres. Tu es passé de nouveau près de moi et de nouveau, tu as ralenti le pas aussitôt. Je tremblais, j'exultais, je priais. Tu allais m'aborder. J'ai senti pour la première fois que pour toi j'étais vivante. J'ai également ralenti le pas, je ne te fuyais pas. Et soudain, je t'ai sentie derrière moi. Sans me retourner, j'ai su que j'allais entendre pour la première fois ta voix adorée s'adresser à moi. L'attente me paralysait. Je craignais de devoir m'arrêter tant mon cœur battait à se rompre. Tu es arrivé à mon côté. Tu m'as parlé à ta manière légère et gaie, comme si nous étions des amis de longue date. Tu m'as parlé avec une spontanéité si ensorcelante que je t'ai répondu immédiatement. Nous avons longé la rue côte à côte. Puis, tu m'as demandé si je voulais dîner avec toi. J'ai répondu oui. Qu'aurais-je osé te refuser ? Nous avons dîné dans un petit restaurant. Ah, tu ne sais pas quel prodige immense tu accomplissais ce soir-là, en ne décevant pas les 5 années passées à attendre avec mon cœur d'enfant. Il se faisait tard, nous sommes partis. À la porte du restaurant, tu m'as demandé si j'étais pressée ou si j'avais encore du temps. Je t'ai répondu que j'avais encore du temps. Tu m'as alors demandé, balayant rapidement une légère hésitation, si je ne voulais pas venir un peu chez toi pour bavarder. Avec plaisir, ai-je répondu, avec toute la spontanéité de mes sentiments. Et j'ai aussitôt remarqué que la soudaineté de mon acquiescement te déconcertait. Gêné ou content, tu étais en tout cas visiblement surpris. Je comprends aujourd'hui ton étonnement. Je sais que seuls peut-être les professionnels de l'amour, les prostituées, répondent à ce genre d'invitation avec ce même assentiment joyeux, ou alors les toutes jeunes filles complètement naïves. Mais en moi pourtant, et comment pouvais-tu le deviner, ce n'était que la volonté devenue parole, le languissement concentré de milliers de journées qui éclataient. Quoi qu'il en soit, tu étais interloqué. Je commençais à t'intéresser. Je sentais, tandis que nous marchions et discutions, que d'une certaine manière, tu m'examinais de côté, étonné. Nous sommes montés chez toi. Pardonne-moi, mon amour, si je te dis que tu ne peux pas comprendre ce que représentait pour moi ce couloir, ces escaliers. Quel vertige! Quel trouble, quel bonheur fou, douloureux, presque mortel. Dis-toi que 1000 fois j'ai fixé de mes yeux brûlants cette porte qu'à présent je franchissais chancelante. Et tu auras une idée, mais seulement une idée. Car tu ne le sauras jamais totalement, mon amour, de ce que cette minute vertigineuse emportait de ma vie. Je suis restée la nuit entière chez toi. Jamais. Jamais je ne t'accuserai, non, au contraire. Je te remercierai à jamais de la richesse de cette nuit qui fut pour moi si étincelante de plaisir, si ivre de félicité. Je sais encore que pendant que tu dormais, que j'entendais ta respiration, que je sentais ton corps et me sentais moi-même si près de toi, là, dans le noir, j'ai pleuré de joie. Le matin, je me suis échappée sans tarder, très tôt. Il fallait que j'aille à la boutique et surtout, je voulais partir avant l'arrivée de ton domestique, il ne fallait pas qu'il me voie. Tu m'as donné un baiser sur la bouche. Je me suis lentement dégagée pour m'en aller. Tu m'as alors demandé « Tu ne veux pas emporter quelques fleurs ?» J'ai répondu oui. Tu as pris 4 roses blanches dans le vase de cristal bleu posé sur le bureau. Ah, je le connaissais, ce vase, depuis ce coup d'œil à la dérobée dans mon enfance. Et tu me les as données. Et toute la journée, je les ai couvertes de baisers. Nous avions convenu d'un rendez-vous pour un autre soir. Je suis venue et ce fut de nouveau merveilleux. Tu m'as offert encore une 3e nuit. Puis tu m'as annoncé que tu devais partir en voyage. Ah, comme depuis mon enfance, je haïssais ces voyages. et tu m'as promis de me faire signe dès que tu serais de retour. Je t'ai donné une adresse poste restante. Je ne voulais pas te dire mon nom. Je protégeais mon secret. Tu m'as offert de nouveau quelques roses en guise d'adieu. D'adieu, oui. Tous les jours, pendant les 2 mois qui ont suivi, je me suis demandé « Mais non, à quoi bon te décrire la torture infernale de l'attente et du désespoir ?» Je ne t'accuse pas. Je t'aime tel que tu es, passionné et oublieux, généreux de ta personne et infidèle. Je t'aime ainsi, seulement ainsi, tel que tu as toujours été et que tu es encore aujourd'hui. Tu étais de retour depuis longtemps. Je l'ai vu à tes fenêtres éclairées et tu ne m'as pas écrit. J'ai attendu, attendu comme une désespérée. Mais tu ne m'as pas appelée, tu ne m'as pas écrit une ligne, pas une ligne. Mon enfant est mort hier. C'était aussi ton enfant. C'était notre enfant, mon amour. L'enfant de mon amour averti et de ta tendresse insouciante, prodigue et presque inconsciente. Notre enfant, notre fils, notre unique enfant. Mais tu te demandes maintenant pourquoi je t'ai caché cet enfant toutes ces longues années. Comment aurais-je pu te le dire ? Jamais tu ne m'aurais cru. Moi, l'inconnu de 3 nuits qui, sans aucune hésitation ni résistance, oui, avec la chaleur du désir, s'est offerte à toi. Jamais tu n'aurais cru que cet anonyme rencontré furtivement te serait resté fidèle, à toi, l'infidèle. Jamais tu n'aurais reconnu cet enfant comme le tien, sans méfiance. Tu m'aurais suspecté. Une ombre serait restée entre toi et moi, l'ombre fugace et farouche de la méfiance. Et cela, je ne le voulais pas. Je ne t'accuse pas, mon amour. Non, je ne t'accuse pas. Pardonne-moi si parfois une larme d'amertume coule dans ma plume. Pardonne-moi. Mon enfant, notre enfant, gît là, mort, dans la lumière vacillante des cierges. J'ai levé mes poings serrés vers Dieu et les traité de meurtriers. Mes sens sont troublés et confus. Pardonne ma plainte, pardonne-la-moi. Mais cet enfant était tout pour moi. Il était de toi, encore toi. Mais plus seulement toi, le bienheureux, l'insouciant, que je ne voulais pas retenir, mais toi qui m'étais donné à jamais. C'est ainsi que je voyais les choses. Entièrement prisonnier de mon corps, enchaîné à ma vie. J'avais fini par t'attraper. Je pouvais te sentir, sentir ta vie croître en moi, te nourrir, te donner à boire, te cajoler, t'embrasser chaque fois que mon âme en éprouvait le désir brûlant. Vois-tu, mon amour, c'est pourquoi j'étais si heureuse quand j'ai appris que j'attendais un enfant de toi. Et c'est pourquoi je te l'ai caché. Parce que désormais, tu ne pouvais plus m'échapper. Dès que j'ai eu cet enfant, je me suis tenue longtemps cachée pour que tu ne me voies pas. Je semblais sauvée de l'inquiétude du désir de toi, de cette fatalité, sauvée par cet autre toi-même qui était vraiment mien. Rarement, très rarement seulement, mes sentiments m'ont poussée humblement jusque chez toi. Je ne faisais qu'une seule chose. Je t'envoyais à chacun de tes anniversaires un bouquet de roses blanches, exactement les mêmes que celles que tu m'avais offertes jadis, après notre première nuit d'amour. T'es-tu jamais demandé tout au long de ces 10, 11 dernières années qui te les envoyait ? Je ne le sais pas et ne connaîtrai jamais ta réponse. Te les envoyer en secret, faire fleurir une fois par an le souvenir de cet instant, c'était assez. Tu ne l'as jamais connu, notre pauvre enfant. Aujourd'hui, je m'en veux de te l'avoir caché, car tu l'aurais aimé. Comme il était mignon. comme il était élégant dans son costume de velours noir ou sa vareuse blanche de matelot. Il était si joli, si tendre, si aimable. Quand il est entré l'année dernière à l'internat du Thérésianum, il portait son uniforme et sa petite épée comme un page du XVIIIe siècle. Maintenant, il n'a plus rien que sa chemisette, le pauvre petit qui gît là, les lèvres bleues et les mains croisées. Mais tu vas peut-être te demander comment j'ai pu élever cet enfant dans le luxe, comment j'ai été capable de lui offrir cette vie brillante et sereine, digne de la meilleure société. Mon bien-aimé, je te parle depuis les ténèbres. Je n'ai pas de honte. Je veux te le dire, mais ne t'effraie pas, mon amour. Je me suis vendue. Je n'étais pas exactement ce qu'on appelle une fille des rues, une prostituée, mais je me suis vendue. J'avais des amis riches, de riches amants. C'est d'abord moi qui les ai cherchés, puis ils m'ont cherchée, car j'étais, l'as-tu remarqué, très belle. J'ai gagné l'amour de tous ceux à qui je me suis donnée. Ils m'ont tous remerciée, tous se sont attachés à moi. Ils m'ont tous aimée. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon amour, qui ne m'a pas aimée. Je sais que tu ne me méprises pas, tu comprends tout, et tu comprendras aussi que je n'ai fait cela que pour toi, pour ton autre toi-même, pour ton enfant. Ton enfant devait tout avoir, toute la richesse, toute la légèreté de la terre. Il fallait qu'il s'élève jusqu'à toi, jusqu'aux sphères qui sont celles de ta vie. C'est pour cette raison, et uniquement pour cette raison, mon amour, que je me suis vendue. Tous ceux que j'ai connus ont été bons avec moi. Tous m'ont choyé, tous m'ont respecté. L'un d'eux en particulier, un homme plus âgé que les autres, un comte d'empire dans le veuvage, le même qui a remué ciel et terre pour que l'enfant sans père, ton enfant, soit admis au Thérésianum. Celui-là m'aimait comme sa fille. 3, 4 fois, il m'a demandé en mariage. Je pourrais être comtesse aujourd'hui, maîtresse d'un château féerique dans le Tyrol. Je n'aurais pas connu de soucis, car l'enfant aurait eu un père tendre qui l'adorerait. J'aurais eu moi-même à mes côtés un homme tranquille, élégant, bon. Je n'ai pas accepté, malgré son insistance, forte et répétée, malgré tout le mal que je pouvais lui faire par ce refus. C'était peut-être une folie, car je vivrais aujourd'hui tranquille quelque part, en sécurité, avec cet enfant tant chéri auprès de moi, mais pourquoi ne devrais-je pas te l'avouer? Je ne voulais me lier à personne. Je voulais être libre pour toi à chaque instant. Au plus profond de moi, au plus profond de mon inconscient, vivait toujours ce rêve d'enfant que tu m'appellerais peut-être encore une fois auprès de toi, ne serait-ce que pour une heure. Et pour l'éventualité de cette heure, j'ai tout repoussé. Uniquement pour être libre au moment où tu m'appellerais. Car ma vie, qu'était-ce d'autre qu'attendre depuis que j'étais sortie de l'enfance? Qu'attendre que tu veuilles? Et cette heure a fini par arriver. Mais tu ne sais pas quand. Tu ne t'en doutes pas, mon amour. Car même en cet instant, tu ne m'as pas reconnue. Jamais, jamais, jamais tu ne m'as reconnue. C'était il y a presque exactement un an, le lendemain de ton anniversaire. Comme c'est étrange. J'avais pensé à toi toutes ces heures précédentes, car ton anniversaire, je le célébrais toujours comme un jour de fête. J'étais déjà sortie très tôt le matin, et j'avais acheté les roses blanches que je te faisais envoyer tous les ans, en souvenir d'un moment que tu avais oublié. Le lendemain, j'étais avec mon compagnon de l'époque, un jeune et riche industriel de Brune, avec qui je vivais depuis déjà 2 ans, qui me vénérait, me gâtait, qui, comme les autres, voulait m'épouser. Nous avons retrouvé une joyeuse compagnie et nous avons soupé dans un restaurant du Ring. Et là, au beau milieu des rires et des plaisanteries, j'ai proposé d'aller danser au tabac. Une force magique et mystérieuse m'a soudain poussée à lancer inconsciemment cette proposition aux autres, tous partant. J'ai subitement éprouvé un désir inexplicable, comme si quelque chose de spécial m'attendait là-bas. Habitués à me faire plaisir, ils se sont levés d'un coup et nous sommes allés danser. Nous avons bu du champagne, quand soudain j'ai été prise d'une gaieté folle, presque douloureuse, comme je n'en avais encore jamais connue. Je buvais et buvais, chantais en chœur les chansons grivoises et éprouvais presque un besoin irrépressible de danser et de pousser des cris de joie. Soudain, comme si quelque chose de froid ou de brûlant se posait sur mon cœur, j'ai été comme transpercée. Tu étais assis à la table voisine en compagnie de quelques amis et tu m'observais avec un regard qui disait ton admiration et ton désir. Avec ce regard qui m'a toujours bouleversée. Pour la première fois depuis 10 ans, tu m'as regardée de nouveau avec toute la puissance inconsciente et passionnée de ton être. Je tremblais. Ton regard était de plus en plus brûlant et me plongeait tout entière dans le feu. Mais je ne savais pas si tu m'avais enfin reconnue ou si tu me désirais comme une nouvelle femme, une femme de plus, une étrangère, une inconnue. Le sang m'est monté aux joues. Je répondais distraitement à mes compagnons. Tu avais dû remarquer que ton regard avait jeté le trouble en moi. Puis tu as payé l'addition de façon ostensible, pris congé de tes camarades et tu es sorti, non sans m'avoir fait comprendre que tu m'attendrais dehors. Je tremblais de froid, de fièvre. Je ne pouvais plus répondre à aucune des questions qu'on me posait, ni maîtriser le sang qui battait dans mes veines comme celui d'une bête traquée. Je me suis levée. J'ai dit à mes amis que je revenais tout de suite et suis sortie te rejoindre. Tu étais dans le hall d'entrée, devant le vestiaire. Tu m'attendais. Ton regard s'est éclairé à ma vue. Tu as accouru vers moi en souriant. J'ai vu tout de suite que tu ne me reconnaissais pas, que tu ne reconnaissais pas l'enfant d'autrefois, ni la jeune fille. Tu t'es emparé de nouveau de moi comme si j'étais une femme nouvelle, une inconnue. Quand pourrions-nous nous voir ? M'as-tu demandé familièrement. « Quand vous voulez », ai-je répondu. Je n'avais face à toi aucune honte. Tu m'as regardé d'un air un peu surpris, avec le même étonnement mi-méfiant, mi-curieux qu'autrefois, lorsque la rapidité de ma réponse t'avait pareillement interloqué. « Pourriez-vous maintenant ? » as-tu demandé un peu hésitant. « Oui », ai-je dit. « Allons-y. » Je voulais récupérer mon manteau au vestiaire. Je me suis alors souvenu que mon ami avait gardé le ticket de garde-robe pour nos deux manteaux qui avaient été mis ensemble. Retourner le lui demander sans raison précise était impossible. D'un autre côté, renoncer à ce moment que j'allais passer avec toi et que j'attendais tant depuis des années, ça, je ne le voulais pas. Je n'ai donc pas hésité une seconde. J'ai passé seulement mon châle par-dessus ma robe de soirée et je suis sortie dans la nuit humide et brumeuse, sans me soucier du manteau, sans me préoccuper de l'homme bon et affectueux avec lequel je vivais depuis des années et que je faisais passer pour un imbécile aux yeux de ses amis, pour celui que sa régulière quitte au premier sifflement d'un étranger. Oh, j'avais conscience au plus profond de moi de la bassesse, de l'ingratitude, de l'ignominie que je commettais envers un ami sincère. Je sentais que j'agissais de façon ridicule et qu'avec cette folie, je blesserais mortellement et à jamais un homme plein de bonté. Je sentais que je brisais ma vie en deux. Mais que valait mon amitié ? Que valait ma vie face à l'impatience de sentir de nouveau tes lèvres, de t'entendre prononcer tes douces paroles à mes oreilles ? Dans quel état j'ai de nouveau monté l'escalier pour la première fois depuis plus de 10 ans? Non, non, je ne peux pas te le décrire. Ni comment je percevais tout en double, à chaque seconde, le passé et le présent. Dans tout cela ton être, toi, toujours toi. Des choses avaient un peu changé dans ta chambre. Il y avait un peu plus de tableaux, plus de livres, ici ou là de nouveaux meubles. Mais tout pourtant me faisait signe avec familiarité. Et sur le bureau, il y avait le vase avec les roses, avec mes roses, celles que je t'avais envoyées la veille, pour ton anniversaire, en souvenir d'une femme dont pourtant tu ne te souvenais pas, que tu n'avais pourtant pas reconnue, y compris en cet instant où elle était toute proche de toi, les mains dans les mains, lèvres contre lèvres. Malgré tout, cela m'a fait du bien de voir que tu avais pris soin des fleurs, et qu'ainsi un souffle de mon être, une respiration de mon amour, flottait autour de toi. Tu m'as prise dans tes bras. J'ai de nouveau passé chez toi une nuit absolument magnifique. Mais même nue, tu ne m'as pas reconnue. Je m'abandonnais comblée à tes caresses expertes et constatais que ta fougue amoureuse ne faisait aucune différence entre une amante et une femme qui vend son corps, que tu t'abandonnais tout entier à ton désir, avec une plénitude dispendieuse, sans réfléchir ni compter. Je n'ai connu dans les caresses d'aucun autre homme un tel abandon à l'instant présent, une telle éruption et un tel rayonnement de son être le plus profond, pour s'éteindre ensuite malgré tout dans un oubli infini, presque inhumain. Mais moi aussi je m'oubliais. Qui étais-je ici et maintenant, dans cette obscurité, près de toi? Étais-je l'ardente enfant d'autrefois? Étais-je la mère de ton enfant? Étais-je l'inconnu? Tout était si familier, si connu, et pourtant si brusquement nouveau dans cette nuit pleine de passion. Je priais pour qu'elle ne prenne jamais fin, pour qu'elle dure toujours. Mais le jour est venu. Nous nous sommes levés tard. Tu m'as invité à prendre le petit déjeuner avec toi. Tu ne m'as pas demandé mon nom, ni où j'habitais. Je n'étais pour toi, une fois encore, que l'aventure, l'anonyme, l'instant brûlant qui, sans laisser de traces, s'évapore dans les fumées de l'oubli. Tu m'as raconté que tu devais partir en voyage, loin, en Afrique du Nord, pour 2 ou 3 mois. En plein bonheur, je me suis mise à trembler, car déjà cognaient à mes oreilles les mots « fini, fini et oublié ». J'aurais voulu me jeter à tes pieds et crier « emmène-moi » pour qu'enfin tu me reconnaisses, enfin, enfin, après tant d'années. Mais j'étais si timide, si veule, si asservie, si faible devant toi. Je n'ai su que dire « comme c'est dommage ». Tu m'as regardée en souriant, ça te fait vraiment de la peine ? Une violence soudaine s'est alors emparée de moi. Je me suis levée, t'ai regardée longuement, fixement. Et j'ai dit, l'homme que j'aimais est lui aussi tout le temps parti en voyage. Je t'ai regardée droit dans les yeux. Maintenant, maintenant il va me reconnaître. Tout tremblait, tout se bousculait en moi. Mais tu m'as souri en guise de réponse. Et tu m'as dit pour me consoler, on revient quand même toujours ? Oui, ai-je répondu. On revient, mais on a oublié. Tu m'as prise par les épaules et tu m'as dit, ce qui est bien ne s'oublie pas, je ne t'oublierai jamais. En plongeant ton regard au plus profond du mien, comme s'il voulait prendre l'empreinte de mon image. Et quand j'ai senti ce regard s'introduire en moi, cherchant, fouillant, aspirant tout mon être, j'ai cru qu'enfin, enfin s'était rompu le mauvais sort de la cécité. Il va me reconnaître, il va me reconnaître. Toute mon âme tremblait à cette pensée. Mais tu ne m'as pas reconnue. Non, tu ne m'as pas reconnue. Jamais je n'ai été aussi étrangère qu'en cette seconde. Car sinon tu n'aurais pas pu faire ce que tu as fait quelques minutes plus tard. Tu m'avais embrassée, tu m'avais une fois encore embrassée passionnément. J'ai dû remettre de l'ordre dans mes cheveux qui s'étaient décoiffés, et pendant que j'étais devant le miroir, là, j'ai vu dans le reflet. J'ai cru que j'allais m'évanouir de honte et d'horreur. J'ai vu que tu glissais dans mon manchon quelques gros billets de banque. Comment ai-je pu ne pas hurler, de pas te frapper au visage. Moi qui t'aimais depuis l'enfance. Moi, la mère de ton enfant. Moi, tu me payais pour cette nuit. Je n'étais pour toi qu'une fille du Tabarin, pas plus que cela. Tu avais réglé la note, tu m'avais acheté. Il ne suffisait pas que tu m'oublies. Il fallait encore que tu m'humilies. J'ai rapidement ramassé mes affaires. Je voulais partir, partir immédiatement. J'avais mal. J'ai attrapé mon chapeau. Il était posé sur le bureau, à côté du vase et des roses blanches, à côté de mes roses. J'ai été prise d'une impulsion violente, irrésistible. J'ai voulu tenter une fois de plus de réveiller ton souvenir. Tu me donnerais une de tes roses blanches ? Volontiers, as-tu répondu en les prenant aussitôt. Mais elles t'ont peut-être été données par une femme qui t'aime, ai-je dit. Peut-être, as-tu répondu, je ne sais pas. Elles m'ont été données, mais je ne sais pas par qui. C'est pourquoi je les aime tant. Je t'ai regardé. Peut-être viennent-elles aussi d'une femme que tu as oubliée. Tu m'as regardé d'un air étonné. J'ai soutenu ton regard. Reconnais-moi. Reconnais-moi enfin, criait le mien. Mais tes yeux me souriaient gentiment, comme s'ils ne savaient pas. Tu m'as embrassé encore une fois, mais tu ne m'as pas reconnu. J'ai bondi vers la porte, car je sentais les larmes me monter aux yeux, et il ne fallait pas que tu les voies. Dans l'entrée, j'étais sortie si précipitamment. J'ai failli me cogner contre Johan, ton domestique. Effrayé, il a fait un bond sur le côté, puis il a ouvert la porte pour me laisser passer, et là, pendant cette infime seconde, entends-tu ? Lors de cette unique seconde, alors que mes yeux pleins de larmes regardaient cet homme qui avait vieilli, j'ai vu une lueur soudaine frémir dans son regard. Dans cette seconde, entends-tu ? Dans cette unique seconde, le vieil homme m'a reconnu, lui qui ne m'avait jamais revu depuis mon enfance. J'aurais voulu me mettre à genoux devant lui pour cette reconnaissance et lui baiser les mains. Mais j'ai seulement arraché de mon manchon les billets de banque avec lesquels tu m'avais flagellé et je les lui ai mis dans la main. Il s'est mis à trembler, m'a regardé d'un air effrayé. Peut-être a-t-il, le temps de cette unique seconde, deviné plus de choses sur moi que tu ne l'as fait toi-même de toute ta vie. Tous les hommes m'ont adoré, tous ont été bons. Il n'y a que toi qui m'as oublié, que toi. Il n'y a que toi qui ne m'as jamais reconnu. N'aie aucune crainte que je te harcèle encore. Pardonne-moi. Il fallait qu'une fois au moins je libère mon âme en cet instant où l'enfant gît, là, mort, abandonné. Que je te parle une fois, rien qu'une fois. Après quoi, je retournerai muette à mes ténèbres, muette, comme je l'ai toujours été près de toi. Je ne te laisse aucune image, aucun signe de ma personne, comme tu ne m'as rien laissé. Tu ne me reconnaîtras jamais, jamais. Que ce qui a été le destin de ma vie soit aussi celui de ma mort. Je ne veux pas te faire venir dans ma dernière heure. Je pars sans que tu connaisses mon nom ni mon visage. Je meurs le cœur léger, car là où tu es, tu ne t'en rendras pas compte. Si ma mort te faisait souffrir, je ne pourrais pas mourir. Je n'arrive plus à écrire. Ma tête bourdonne. Mes membres me font mal, j'ai de la fièvre. Je n'ai plus la force d'écrire. Adieu, mon amour. Adieu. Je te remercie. Même ainsi, malgré tout, c'était bien. Je me sens bien maintenant. J'ai tout dit. Tu sais désormais. Non, tu devines seulement la force de mon amour. Mais surtout qu'il ne te pèse pas. Je ne te manquerai pas. Cela me console. Rien ne changera dans ta vie. Ta lumineuse, ta belle vie. Ma mort ne te fera rien. Cela me console, mon amour. Mais qui ? qui désormais va t'envoyer les roses blanches pour ton anniversaire. Ah, le vase sera vide. Ce souffle infime, cette infime respiration de ma vie qui flottait autour de toi une fois par an, cela aussi va disparaître. Mon amour, écoute, je t'en prie. C'est la première et la dernière prière que je t'adresse. Fais-le pour moi. Achète à chacun de tes anniversaires. C'est un jour où l'on pense à soi. Achète ce jour-là des roses et mets-les dans le vase. Fais-le, mon amour. Fais-le comme d'autres font dire une messe une fois par an pour une chère disparue. Moi, je ne crois plus en Dieu et ne veux pas de messe. Je ne crois qu'en toi et ne veux continuer à vivre qu'en toi. Oh, rien qu'un jour dans l'année. Et tout à fait silencieusement, comme j'ai vécu près de toi. Je t'en prie, fais-le, mon amour. C'est la première prière que je te fais et la dernière. Je te remercie. Je t'aime. Je t'aime. Adieu.
Les mains tremblantes, il reposa la lettre. Puis il réfléchit longuement. Un souvenir embrouillé remonta à la surface. Celui d'une petite voisine, d'une jeune fille, d'une femme rencontrée dans un cabaret. Mais ce n'était qu'un souvenir vague et confus, comme une pierre qui scintille sans forme au fond d'une eau courante. Des ombres affluèrent, refluèrent, mais aucune image ne s'en dégagea. Il avait des souvenirs de sentiments et pourtant ne se souvenait pas. C'était comme s'il avait rêvé de tous ces personnages, souvent et profondément, mais seulement rêvé. Son regard tomba alors sur le vase bleu posé devant lui sur le bureau. Il était vide. Vide pour la première fois depuis des années, le jour de son anniversaire. Un frisson de peur le parcourut. Il lui sembla qu'une porte invisible s'était soudain ouverte et qu'un courant d'air froid venu d'un autre monde s'engouffrait dans l'espace paisible où il se trouvait. Il sentit une mort. Il sentit un amour immortel. Quelque chose se mit en mouvement au plus profond de son âme. Et il se mit à penser à l'invisible, abstraitement et avec passion, comme à une musique lointaine.
D'une inconnue, de Stefan Zweig, traduit de l'allemand par Mathilde Lefebvre et publié aux éditions Gallimard. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Avec Peggy Martineau et Laurent Manzoni. Improvisation musicale, Aurélien Bianco. Prise de son, Cédric Chatelus et Émilie Couette. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Cédric Aussire.
Vous écoutez France Culture, c'était Samedi Noir, à écouter, réécouter sur franceculture.fr, à partager sur les réseaux sociaux